Vivre FM Podcast. 11h midi sur Vivre FM, la vie des entreprises. Anne-Lise Farcoa.
Quelle joie de trouver des talents en puissance et de soutenir des projets extraordinaires qui n'auraient pas pu voir le jour sans notre aide. La joie aussi d'accompagner dans la durée ces personnes hors du commun. Ces mots sont ceux de Bertrand Brugerolles que j'ai le plaisir d'avoir en face de moi ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du jury handicap de la Fondation Banque Populaire et vous êtes venu accompagné de Martine Tremblay. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous-même la directrice de la Fondation. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin pour nous parler des actions de la Fondation Banque Populaire et nous présenter Charlotte Desmousseaux que vous avez accompagnée dans son projet de création d'une librairie et que nous aurons par téléphone dans la suite de l'émission. Merci à vous qui nous écoutez. Très belle journée à tous.
La vie des entreprises jusqu'à midi sur Vivre FM.
Bonjour à tous et bienvenue dans la vie des entreprises. Nous sommes ensemble pendant une heure en compagnie ce matin de Bertrand Brugerolles, président du jury handicap de la Fondation Banque Populaire, et Martine Tremblay, directrice de cette même fondation. Et nous aurons par téléphone dans la suite de l'émission Charlotte Desmousseaux que vous avez accompagnée dans son projet de création d'une librairie. Alors, première question, la Fondation Banque Populaire a été créée en 1992. Quels étaient les objectifs au départ ?
Alors, les objectifs ont toujours été d'accompagner pour la partie handicap, des personnes qui avaient un projet qui pouvait être un projet de création d'entreprise, projet artistique, projet sportif, et de les accompagner surtout dans le temps, c'est-à-dire sur non pas une aide ponctuelle, mais de pouvoir les accompagner sur 3 ans éventuellement, de façon à s'assurer que l'objectif qu'ils s'étaient proposé était atteint ou en cours d'être atteint.
Donc c'était très ouvert, effectivement, vous ne vous étiez pas axé sur un axe particulier, en fait. Effectivement, vous parlez de projets sportifs, de projets artistiques, de projets de création d'entreprise, c'est très 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 ouvert.
C'était très ouvert, ça a toujours été très ouvert, avec toujours cette notion, non pas d'un sponsoring au sens d'un financement d'une action, mais vraiment d'accompagner un projet de vie, de permettre à des personnes en situation de handicap de pouvoir développer un talent qui leur était propre et qui, sans notre aide, éventuellement restait non exploité, non valorisé, si vous voulez.
Alors, j'imagine que depuis 92, vous avez soutenu énormément de projets. Quels sont les profils ? Est-ce qu'il y a un profil type des personnes que vous accompagnez ? Ou est-ce que c'est vraiment, est-ce que le seul critère, c'est d'être en situation de handicap ?
Alors d'abord, on se retrouve avec des personnes en situation de handicap dans deux grands créneaux qui sont le handicap moteur et le handicap sensoriel.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est plus problème, on va dire, psychiatrique ou handicap d'origine psychiatrique ou trouble cognitif dominant ne relève pas de nos actions.
Si les maladies invalidantes non plus, j'imagine.
Si, éventuellement.
Ah, si, ça peut être,
si,
éventuellement.
Si, c'est possible. Donc, du handicap moteur et sensoriel, on va dire. Des personnes de moins de 50 ans.
Pourquoi ?
Parce qu'on peut penser... On peut penser qu'au-delà de 50 ans, le projet de vie a été quand même, on peut l'espérer, bien mis en place déjà. Là, on est sur des personnes qui sont soit à très jeunes, finalement, on va dire de 18-20 ans, et qui sont en train de préparer un projet de vie, soit des personnes qui avaient déjà démarré quelque chose et qui sont obligées de reprendre du fait d'un handicap acquis et de refaire un projet de vie, de repartir sur de nouvelles bases en tenant compte de leur nouvelle situation.
Comme je suis très curieuse dans cette émission, j'aimerais savoir ce qui vous a amené, vous, à vous impliquer dans cette fondation, à la fois vous en tant que président et vous en tant que directrice.
Je vais commencer. Donc, en tant que président, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, donc je suis médecin et je travaillais, ou j'ai travaillé pendant un certain temps avec le professeur Held, qui a été le premier président du jury, qui était chef de service à Garches. Et moi, je suis spécialiste en médecine physique et réadaptation. Et donc, un jour, le professeur Held m'a appelé en me disant « Est-ce que vous seriez partant pour participer à ce jury handicap ?» Voilà. Et je dois dire que ça fait donc 25 ans, et ça fait 25 ans que je trouve vraiment un certain bonheur, une grande joie à participer, initialement comme membre du jury et depuis 8 ans comme président du jury.
Parce que donc vous côtoyez au quotidien des personnes qui ont eu des accidents et qui sont obligées de se reconvertir professionnellement.
Absolument. Voilà. En tout cas, ça a été mon activité pendant 30 ans. Aujourd'hui, je suis à la retraite depuis quelques mois.
Mais en tout cas, vous connaissez bien, ces profils-là et les difficultés qu'on peut avoir effectivement à continuer à se dire que la vie professionnelle n'est pas terminée parce qu'on a eu un accident, une maladie et que...
Non, je crois que c'est la notion de renaissance dans le cadre du handicap acquis et dans le cadre du handicap chez un sujet d'une personne plus jeune, c'est de se dire... est-ce que je suis encore capable de faire quelque chose? Est-ce que je peux? Voilà. Et finalement, nous, on est là pour dire, mais si tu as ou vous avez le talent, et maintenant, il faut trouver les moyens de l'exprimer.
Et Madame Tremblay?
Alors moi, je suis à la Fondation Banque Populaire donc depuis 2009. J'ai toujours travaillé dans le groupe Banque Populaire et donc je connaissais cette fondation. Et en fait, je l'ai approchée par des fonctions avant... de près. Et lorsqu'on m'a proposé ce poste, ça m'a tout de suite intéressée. Moi, c'était les contacts qui m'intéressaient surtout, les relations, découvrir des personnes, des talents. Et évidemment, le handicap, je ne connaissais pas trop. Mais lors de mon premier jury que j'ai tenu avec donc tous nos experts, une dizaine de personnes et donc Bertrand Brugerolles, le président, j'ai découvert des leçons de vie incroyables, des personnes incroyables. Et depuis, écoutez, je suis à la Fondation, je suis très heureuse et... Voilà, il n'y a pas que le handicap, mais c'est vraiment, tous les jours, on découvre des gens passionnés, audacieux, en tous les cas, voilà.
Alors, combien de projets vous soutenez par année? Est-ce qu'il y a un nombre de projets déterminés ou est-ce que c'est en fonction de ce que vous recevez comme candidature?
Alors, c'est en fonction des dossiers qu'on reçoit. On en reçoit à peu près, je dirais, une quarantaine par an.
Ah oui, quand même.
Et puis donc, oui, c'est ça. C'est à peu près 20 dossiers à examiner qui correspondent à nos critères qu'on examine à chaque jury. Donc, il y a 2 jurys par an. Et on en retient une dizaine à peu près. Quelquefois 12, quelquefois 8. Enfin, c'est très variable. C'est vraiment en fonction des projets qui nous sont proposés.
Et une fois que vous soutenez, que vous décidez de soutenir un projet, vous accompagnez ces personnes pendant de 1 à 3 ans, c'est ça hein?
Tout à fait. Selon la pertinence du projet, on peut les suivre 2 ans, 3 ans. Oui.
Alors, est-ce que vous diriez que la France est un pays d'entrepreneurs? La France est un pays de créateurs?
Oui, la France, il y a beaucoup de gens audacieux qui osent, en tous les cas, qui ont envie d'agir, ça c'est sûr. Donc il faut leur donner les moyens, et nous c'est ce qu'on essaye de faire avec ces personnes-là.
Ouais. Et c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on n'a pas le droit, qu'on n'a pas le droit de créer et qu'on n'a pas le droit d'avoir des rêves aussi.
Tout à fait, ils ont tout à fait les mêmes potentialités que les autres, et bien sûr, ils ont le droit de rêver, encore plus même.
Alors, comment on fait pour... donc, vous recueillez régulièrement tout au long de l'année. Il n'y a pas de date fixe, c'est-à-dire que vous ne dites pas jusqu'au 30 mai...
Il y a 2 appels à projets.
Ah.
Mais bon, toute l'année, on reçoit des demandes, on les examine. Mais on a 2 dates quand même précises dans l'année, le 15 mars et le 15 octobre pour récupérer les dossiers.
D'accord. Et les personnes ont les réponses combien de temps après?
C'est très variable. En fait, il y a un pré-jury, après il y a un jury, un conseil d'administration. Disons que 2 mois après, au plus, ils ont une réponse.
Les sujets sont aussi divers et variés qu'on peut l'imaginer, ou est-ce qu'il y a quand même des axes qui sont toujours un petit peu utilisés?
C'est assez varié, mais bon, on a des grandes rubriques quand même. On a des demandes pour des études supérieures, création d'entreprise. Ça se développe de plus en plus, je trouve. On a le handisport.
Oui.
Et puis...
Et donc des projets artistiques, vous disiez aussi.
Et des projets artistiques, tout à fait. Voilà, c'est ce que je
disais. Vous en avez 1 ou 2 à nous donner, là, par exemple, que vous auriez dans la tête. Après, dans la suite de l'émission, on aura une jeune femme qui vient de créer sa librairie. Donc ça, c'est assez passionnant. Mais peut-être que vous en avez un qui...
Oui, alors en projet artistique, oui, je vais vous parler d'une jeune femme peintre que vous connaissez peut-être certainement, d'ailleurs, qui s'appelle Priscille Vincent, qu'on a aidé au tout début. Donc elle est peintre, donc elle n'a qu'un bras. Et donc on l'a aidé au tout début pour faire des expositions, se faire connaître. Et maintenant, écoutez, elle en vit, quoi. Et
ah oui, donc c'est
lauréate depuis 2008. Et maintenant, elle vit vraiment de sa peinture. Donc on est vraiment très fiers.
Ça, c'est ce que vous souhaitez, en fait.
Ah tout à fait. C'est de voir que dans la durée, la personne...
puisse se débrouiller sans vous.
Tout à fait, voilà. Et puis, on a un exemple plus récent. Donc, c'est un jeune homme qui est oboïste. Il est oboïste international.
Oboïste ?
Oui, il est musicien, lui.
Ah, d'accord.
Il est oboïste, premier oboïste à l'orchestre de Tokyo. Et donc, il est revenu en France pour faire une formation auprès de, de grands maîtres, parce qu'en France, on a quand même des très, très grands musiciens. Et donc, on l'a aidé sur une année là, à se reformer. Et puis, on vient d'apprendre qu'il ne retournera pas au Japon. Donc ça, c'est un peu grâce à nous et on en est très contents. Il va rentrer comme oboïste à Londres, à l'Opéra de Londres. Donc, il va être plus près de nous. Donc là aussi, on est très fiers.
Oui, parce que j'imagine que vous ne les lâchez pas comme ça dans la nature, vous les suivez. Toutes ces personnes que vous accompagnez comme ça, s'il y en a une dizaine par an, effectivement, c'est assez valorisant pour vous aussi de savoir qu'ils se débrouillent bien, que ça se passe bien.
Oui, tout à fait. 10 par an, c'est vrai qu'on peut les suivre. Et puis même une fois au-delà des 3 ans, en fait, ils restent proches de nous. Ils ont toujours à cœur de nous tenir informés.
Oui, ouais.
Et nous, on est très contents d'avoir de leurs nouvelles, même après. Hein. Et on peut toujours les aider par des conseils, en fait. Hein. Voilà, notre vaste réseau de banques populaires, on peut toujours les conseiller s'ils ont besoin pour d'autres choses. Le soutien ne sera plus financier, mais en tous les cas, ils savent qu'ils ont des personnes qui pensent à eux et qui ont confiance en eux. Et ça les aide beaucoup.
Et puis, ça fait un petit réseau, peut-être, effectivement.
Un peu une communauté, tiens. La Fondation.
Bon, vous avez soutenu un très joli projet, il s'agit d'une librairie qui vient d'ouvrir à Nantes. On va accueillir dans la suite de l'émission la jeune entrepreneuse. Et pour l'instant, on fait une pause en musique. À tout de suite.
La vie des entreprises, jusqu'à midi sur Vivre FM, Alice Farcoa.
Dans quelques minutes, vous retrouverez votre rubrique « Les 3 minutes pour l'emploi ». Mais tout de suite, nous sommes dans la vie des entreprises en compagnie de Bertrand Brugerolles, président du jury handicap de la Fondation Banque Populaire, Martine Tremblay, directrice de cette même fondation, et nous avons tout de suite par téléphone Charlotte Desmousseaux, que vous avez accompagnée dans son projet de création d'une librairie. Charlotte, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints par téléphone. Vous n'avez pas pu être avec nous dans le studio parce que vous n'êtes pas à Paris, vous êtes à Nantes, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Il fait beau aujourd'hui à Nantes ?
Oui, ça va.
Bon. Alors, avant de parler de votre librairie, de votre projet, de la façon dont vous avez travaillé avec la Fondation Banque Populaire, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, Charlotte ?
Alors, moi, je suis libraire depuis 2005. J'ai fait une formation professionnelle qualifiante pour exercer mon métier. J'ai commencé par travailler dans une librairie de sites touristiques où j'ai monté le rayon jeunesse, par exemple, et fait plein d'autres petites choses. Et après, dans la même structure, on m'a proposé de prendre les rênes du montage d'une toute nouvelle librairie à Nantes qui est aux Machines de Lille. Donc, c'est là où on peut admirer l'éléphant mécanique. Enfin voilà, c'est un lieu touristique très connu à Nantes et à l'international. Et là, j'ai monté une librairie où je suis restée pendant 7 ans. Et en ayant toujours en tête l'envie de monter en fait ma structure.
De créer votre propre entreprise. Voilà. Je peux vous demander votre âge, Charlotte ?
Moi, j'ai 36 ans.
Et vous avez toujours cette envie d'être libraire ? C'est vraiment quelque chose qui vous anime depuis longtemps ?
Oui, moi, ça faisait depuis 2003 que j'avais ce projet en tête. En fait, quand j'ai commencé à chercher un métier qui pouvait s'associer à ma passion pour les livres, je suis tombée sur cette formation de libraire. Donc, libraire, je ne savais pas vraiment ce que c'était parce que moi, je venais d'un milieu plutôt populaire, à la campagne, où on n'avait pas des habitudes d'achat en librairie. Donc, c'était un métier qui ne me parlait pas vraiment, mais je voyais bien quand même... Je pourrais peut-être en faire quelque chose par rapport à ma passion des livres.
Oui.
Et du coup, voilà, de fil en aiguille, moi, je me suis dit, allez, je me lance. J'ai fait quelques stages et j'ai vu que vraiment ça me plaisait. Et puis, voilà, du coup, j'ai fait en sorte de, pendant 13 ans, de mettre des sous de côté et d'avancer toujours dans mes expériences professionnelles dans l'objectif d'ouvrir ma structure, en fait.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? C'est le contact avec les gens ? C'est de découvrir des auteurs ? Qu'est-ce qui vous anime ?
Moi, c'est un petit peu les deux. C'est le relationnel client, le fait de transmettre, voilà, de pouvoir accompagner les gens dans leur parcours de lecture, donc de les connaître tout petits. Là, on a des bébés qui viennent pour les... Voilà, on a vu les mamans enceintes, les bébés arrivent, ouais, et du coup, on sait qu'on va les voir grandir. Là, on leur conseille leur premier petit livre, on va les accompagner, et on va aussi fidéliser des lecteurs adultes. Voilà, du coup, moi, c'est vraiment le chemin de lecteur qui me motive et puis l'envie de transmettre mes lectures et puis notre personnalité, notre univers, quoi, nos engagements.
On a tous envie, moi je en vous écoutant, je me dis, et je suis sûre que les auditeurs le pensent la même chose, c'est qu'on a tous envie d'avoir un libraire de quartier comme ça, qui peut nous conseiller et tout, parce que c'est vrai que c'est un peu, on a un peu oublié hein, ce genre de relation avec les clients. Alors, comment s'est passée votre collaboration avec la Fondation Banque Populaire? Comment vous les avez connus et comment vous avez travaillé avec eux?
Alors moi, ça date d'il y a très longtemps. En fait, en 2003, quand j'ai réfléchi à monter mon projet tout au départ, j'habitais à Marseille et j'avais référencé en fait toutes les aides qui pouvaient exister par rapport au handicap, et entre autres. Et il y avait dans mon listing la Fondation de la Banque Populaire. J'ai laissé le dossier de côté pendant jusqu'à avril 2015, donc l'année dernière.
Oui.
Et quand j'ai réouvert mes dossiers, j'ai vu qu'il y avait cette fondation qui existait. Et là, j'ai tout de suite cherché à joindre Martine, que j'ai un peu harcelée pendant plusieurs. J'étais en train de monter des tonnes de dossiers, j'avais tout sur le feu, et du coup, j'arrêtais pas d'appeler Martine en lui disant « Mais est-ce que je suis dans les délais? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que ça peut marcher ?» Voilà, parce que ça a été fait assez dans l'urgence. On a trouvé le local beaucoup plus vite que prévu, donc il fallait convaincre les banques, être accompagné, et puis il manquait encore pas mal d'argent et tout ça. Donc voilà, moi, j'ai beaucoup travaillé en binôme avec Martine pour le montage.
Ah oui, alors donc Martine, effectivement, vous ne faites pas que recevoir les dossiers comme ça sur papier, vous accompagnez vraiment les personnes, même pendant qu'ils sont en train de monter leur dossier.
Ah ben, quelquefois, oui. Alors j'examine le projet, je le regarde, et quand je vois que c'est un projet vraiment que l'on peut aider, s'ils ont besoin de conseils, j'hésite pas à les conseiller, oui, pour remplir certaines pages. C'est pas toujours facile hein, de remplir un budget, d'écrire une lettre de motivation.
Bien sûr.
Voilà, pour joindre aussi des justificatifs, voilà. Mais le dossier de Charlotte était déjà vraiment très bien préparé. J'ai pas eu beaucoup de mal.
Qu'est-ce qui vous a séduit autant l'un que l'autre, justement, dans le dossier de Charlotte?
Charlotte. Je crois que c'est Charlotte tout court qui nous a séduit. C'est elle qui nous a séduit dans la présentation de son projet.
Elle a l'air d'être super motivée, d'être super d'adorer ce qu'elle fait en plus.
Puis dans le côté un petit peu irréel, de se dire qu'elle n'en a pas parlé, mais de se dire que c'est quelqu'un qui a des problèmes de vision, qui est une malvoyante et qui veut être libraire. Donc déjà, ça vous interpelle fortement. Et puis son projet était bien construit. Alors il a été bien construit parce qu'elle l'avait bien construit et que Martine l'a aidé à le mettre bien dans les formes, de façon à ce qu'on ne perde pas de temps sur un jury qui va dire bah, « il manque des pièces, on aimerait avoir des renseignements complémentaires ». Là, ça permet, dès le passage au jury, qu'on puisse dire « bon, c'est OK, on y va, au contraire, super projet ». Et même, on veut l'aider dans le temps pour être sûr que sa librairie marche. Voilà.
Vous restez avec nous, Charlotte. Vous restez avec nous, Monsieur Brujol, Madame Tremblay. Pour l'instant, on a notre coach qui va répondre aux questions sur l'emploi de nos auditeurs. À tout de suite. Chaque année, malgré la crise, de nombreux Français créent une entreprise. Nous avons un message de Julien de Paris 12e. Il a 46 ans. Il est au chômage depuis plus de 2 ans. Il a envie de créer son entreprise, mais sa femme s'inquiète et ne le soutient pas vraiment dans ce projet. Jean-Yves Dugas, vous êtes le secrétaire général de la Fondation Entreprendre. Diriez-vous qu'il est important, voire essentiel, d'avoir le soutien de ses proches quand on souhaite monter sa boîte?
Oui, évidemment. Il est important et essentiel, comme vous l'avez dit, d'avoir le soutien de ses proches pour créer sa boîte. Surtout que l'exemple que vous citez, c'est quelqu'un qui a déjà certainement créé autour de lui un climat d'inquiétude sur son avenir. Donc, il ne faut pas créer, se dire « allez, j'y vais par défaut ». Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut avoir une conviction. Il faut avoir une véritable envie de devenir acteur de sa vie pour ne pas dépendre des autres. Et la preuve, c'est que si on veut, dans ce cas-là, il dépend totalement des autres. Alors, c'est majeur d'avoir le soutien de ses proches. Il faut passer du temps à leur expliquer pourquoi on veut s'engager. Et si ce n'est pas suffisant, si notre propre parole ne suffit pas, effectivement, le doute peut s'insinuer, alors il ne faut pas hésiter à aller se tourner vers d'autres entrepreneurs qui ont fait ce même schéma de réflexion au départ et que ces personnes viennent expliquer devant ces tiers, devant cette famille, le parcours, mais également la lumière au bout ou les embûches, ne pas savoir les cacher, mais la réussite au bout de tout ça.
Mais cela dit, vous pouvez comprendre effectivement l'inquiétude de la femme de Julien. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui dire à Julien ?
Ben, Julien, il faut effectivement...
Il faut qu'il parle.
Il faut qu'il soit convaincant, mais avec ses tripes.
Ouais.
Il faut qu'il sache rassurer. Et je le redis, seul, ça peut ne pas suffire. Alors, tout à l'heure, on a parlé de réseau d'accompagnement. Ben, il peut se permettre d'aller frapper à la porte d'un réseau d'accompagnement en disant, voilà, est-ce que vous pouvez me présenter quelqu'un qui puisse venir, à qui je puisse parler ? Peut-être que j'ai trouvé les mots qu'il me manque pour aller expliquer à mes conjoints, à mes enfants, mais peut-être qu'il va pouvoir venir devant eux et citer son parcours, son exemple.
Parce que on ne sait pas quel est le parcours de Julien, il ne nous l'explique pas dans son mail, mais imaginons qu'il soit cadre dans une grande banque et qu'il ait envie de monter une entreprise de menuiserie au fin fond de la France. On comprend aussi que c'est un changement de vie pour toute une famille, donc c'est aussi tout ça qu'il faut expliquer.
Ça se comprend, et si déjà il montre par une motivation à apprendre le métier, à passer un CAP, un BEP, on en voit beaucoup d'exemples de ce genre sur l'exemple que vous citez. Et là, je peux vous dire qu'il va forcer l'admiration aussi de sa famille par l'engagement qu'il prend.
Madame Tremblay, vous qui accompagnez régulièrement des personnes qui souhaitent comme ça changer de vie, monter leur entreprise, etc. Vous avez aussi la vision de la famille, la vision des proches. Vous savez si les personnes sont accompagnées, sont suivies, sont soutenues par leurs proches ? Pas forcément, hein.
Non, pas forcément, mais je pense que quand le projet arrive à la fondation, s'il y a une famille, elle est déjà...
impliquée.
Oui, elle est déjà impliquée.
Oui, allez-y. Oui,
moi, je pense qu'on a un bon exemple de l'implication de tout l'entourage, c'est l'aide qu'on apporte à des agriculteurs handicapés. C'est-à-dire que t'imagines un agriculteur en fauteuil roulant qui nous sollicite pour son exploitation. On se dit d'abord, est-ce que c'est bien raisonnable ?
Oui.
Est-ce qu'il ne faut pas qu'il aille faire autre chose ? Mais en fait, on sait bien que chez les agriculteurs, il y a ce besoin de rester attaché à la terre, à leur exploitation. Bon. Et très vite, on se rend compte que c'est leur projet à eux, bien sûr, mais qu'autour, il y a les parents qui sont encore là et qui finalement vont compenser les difficultés qui peuvent malgré tout survenir et qu'on imagine quand même assez facilement. Et puis souvent, on s'aperçoit que le frère, il a l'exploitation mitoyenne. Donc en fait, là aussi, il va pouvoir aider. Donc il y a tout cet environnement qui, pour nous, est un gage de réussite pour l'exploitation. Et puis, on pense souvent que le réseau des banques, dans son implantation, des banques populaires, dans son implantation nationale, va pouvoir aider localement, avec une relation très particulière avec l'exploitant lui-même.
On fait une pause en musique et on continue à parler de la Fondation Banque Populaire dans la suite de l'émission, et avec Charlotte qui est toujours avec nous, j'espère. À tout de suite.
Jusqu'à midi sur Vivre FM, la vie des entreprises, Alice Farcoa.
De retour dans la vie des entreprises, nous sommes toujours avec Bertrand Brugerolles, président du jury handicap de la Fondation Banque Populaire, Martine Tremblay, directrice de la Fondation, et nous avons par téléphone Charlotte Desmousseaux, que vous avez accompagnée dans son projet de création d'une librairie. Charlotte, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, je suis toujours là.
Alors Charlotte, on l'a dit, vous êtes malvoyante. Est-ce que vous avez l'ambition de proposer des ouvrages spécifiquement pour les personnes en situation de handicap dans votre librairie, ou est-ce que c'est une librairie généraliste où on va trouver tout type d'ouvrages ?
Alors on a tout type d'ouvrages, c'est une librairie généraliste de quartier. Pour les personnes malvoyantes, pour le moment, on n'a que les livres audio, mais qu'on conseille et qu'on va faire étiqueter en braille par une amie malvoyante, en fait, pour qu'il y ait plus d'autonomie pour les personnes handicapées dans la boutique.
Ah oui, parce que j'imagine que c'est quelque chose forcément qui vous tient particulièrement à cœur.
Oui, complètement, oui. Oui, de pouvoir rendre les gens plus autonomes, oui, tout à fait.
Donc la librairie est ouverte depuis novembre, c'est ça ?
Le 1er octobre, on a ouvert.
Ça fait six mois,
ça y est.
Et ça se passe bien ?
Oui, très bien, on est très contents, un très bel accueil des clients dans le quartier, ils sont devenus fidèles très rapidement, on a aussi des nouveaux clients tous les jours, donc voilà, c'est une très belle aventure, on a encore plus de réussite que ce qu'on attendait. Donc
félicitations, c'est génial. Et vous êtes toute seule à travailler dans cette librairie ?
Alors du coup, il y a mon mari qui n'était pas du tout prévu dans l'aventure, mais en fait, à partir du moment où on a commencé les travaux, on a vu que ça allait être quand même un sacré chantier, ouais. Tout ça. Et du coup, bah, on fait un duo de choc. Là, pour le moment, ça fait 6 mois. Et du coup, voilà, on travaille tous les deux ici.
Ah bah c'est très bien, parce que je fais régulièrement des émissions sur comment on est en couple et comment on travaille ensemble. Donc, je vous inviterai tous les deux alors. Merci beaucoup, Charlotte, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci beaucoup.
Et bonne vente alors, bonne continuation.
Au revoir, merci. À bientôt, merci.
À très bientôt. Je ne vous ai pas demandé, qui sont les membres du jury de la Fondation Banque Populaire?
Alors, il y a 10 membres du jury. Et en fait, les critères qu'on a pris pour composer ce jury, c'était des critères de profession, des gens qui étaient déjà sensibilisés au handicap. Donc, il y a un certain nombre de médecins de médecine physique et réadaptation, mais il y a aussi ergothérapeute, ergonome, assistante sociale. Et un des critères qui a été prépondérant, c'est un critère géographique. C'est-à-dire qu'on a des membres du jury qui sont de toute la France, hein, et de toutes les régions.
Oui, parce qu'on vous propose des projets qui peuvent être dans toute la France, effectivement.
Oui, et puis si vous voulez, comme quelquefois on se dit, on n'a pas tout à fait tous les éléments pour faire un bon choix, soit d'éliminer, soit de retenir, ça permet à un membre du jury de proximité d'aller rencontrer le candidat pour voir si on a bien tout compris du projet, parce que c'est
même
difficile
de faire
venir quelqu'un de Bordeaux ou de Marseille.
Quelqu'un qui est en plus en situation de handicap.
En situation de handicap, à qui on va dire, bah non, vous ne relevez pas du jury, vous ne relevez pas de la fondation. Donc en fait, il vaut mieux quand même pouvoir, nous, aller sur place, essayer de vérifier les choses.
Est-ce que ce sont forcément des projets qui sont à l'état de projet, ou est-ce que vous pouvez soutenir des projets qui sont déjà existants? Ma question n'est pas claire?
Si, c'est très clair. Elle est très claire. Je réfléchis aux situations, qui peuvent se rencontrer. Alors, c'est vrai que c'est plutôt de la création.
Ouais.
C'est plutôt au démarrage. Alors, quelquefois, il peut y avoir une réorientation. C'est-à-dire que quelque chose existe. Et puis, du fait du handicap ou d'une réflexion complémentaire, je dis, je vais développer telle autre partie de l'activité. Alors là, pourquoi pas? Quelquefois, c'est aussi de compléter par un élément de formation. C'est-à-dire que j'ai une petite entreprise, mais par rapport à mes difficultés, j'aurais besoin de faire une formation complémentaire. Alors, je pense à des situations de personnes qui voulaient faire des formations de massage, par exemple, ou de choses comme ça, et qui nous soumettent ce projet, qui est un projet à ce moment-là de formation qui permet de développer un créneau dans leur entreprise.
D'accord, parce qu'effectivement, absolument, parce qu'effectivement, quand on le sait, quand on a un handicap, il peut quelquefois être évolutif.
Bien sûr.
Donc effectivement, on peut avoir des difficultés à assurer son poste tel qu'il était jusqu'à présent, et puis du coup, effectivement, on a besoin... Alors, je crois que vous ne soutenez pas les aménagements de poste, hein, c'est
alors
ça.
J'y pensais. Hein. Ouais. En vous écoutant, ouais. Je pensais à ça, c'est-à-dire que de façon très très claire maintenant,
ça, c'est quand même,
on va dire tout ce qui est.
Il y a la GFIP qui s'occupe de ça normalement.
Voilà, oui. Tout ce qui est aide technique, plus les véhicules, on ne le soutient pas parce que d'abord il y a d'autres moyens de financement. Et nous, c'est toujours un critère, c'est-à-dire que quand un projet nous est soumis, on regarde si les aides habituelles prévues ont été sollicitées.
Oui.
Et donc, on va renvoyer sur ces demandes-là. Hein. Et nous, on va venir sur le complément et en disant, bah voilà, il vous manque un petit quelque chose et on vient compléter.
Par exemple, un libraire qui aurait besoin d'un aménagement pour accéder à un étage supérieur, ou, etc., c'est pas du tout ce que vous aidez, en fait. Ça peut être l'achat d'un local, ça peut être effectivement des formations, ça peut être ce genre de choses.
Je pense notamment à une kinésithérapeute que l'on a aidée, qui était malvoyante et qui travaillait dans un cabinet avec une collègue voyante. Et qui, son handicap ayant progressé, en fait, elle n'arrivait plus toutes les deux à travailler ensemble. Et on lui a permis d'avoir son propre cabinet. En fait, elle a accédé, elle a eu son propre cabinet qu'elle a pu concevoir à son image pour son handicap. Et maintenant, elle travaille toute seule. Le cabinet est en face de chez elle. Elle a une clientèle. Et on lui a permis aussi de se former pour qu'elle puisse proposer d'autres spécialités, notamment de la sophrologie en plus du massage. Voilà. Donc, voilà. Ce genre d'équipement, ça, par contre, on peut le faire.
De quoi est-ce que vous êtes le plus fier en 25 ans?
Je pense que ce qui est le plus attachant, finalement, c'est de se dire que ça a 25 ans.
Oui.
De se dire que dans la durée, depuis 25 ans, on peut aider et que finalement, la banque nous aide depuis 25 ans, nous suit depuis 25 ans et fait une confiance, je ne veux pas dire totale, ou parce qu'il y a un conseil d'administration qui valide les projets, mais nous suit depuis le début. Or, ce n'est pas, si vous voulez, en termes d'image pour la banque, ce n'est pas forcément évident.
Non,
donc c'est vraiment
parce que ce n'est pas forcément sexy, ce n'est pas forcément... Voilà, c'est...
Je pense que les banques populaires qui nous aident, là, vraiment, bon, ils ont un bateau qui traverse l'Atlantique et qui, là, en termes d'image, c'est tout le monde connaît ce bateau. La librairie qui va s'ouvrir de Charlotte, bah, si vous voulez, est-ce que ça a le même impact en termes d'image pour une banque? Non,
ça n'a pas le même impact, mais par contre, la fondation, c'est tout à fait le reflet des banques populaires.
Voilà.
C'est le reflet des valeurs des banques populaires, c'est-à-dire la solidarité, l'esprit d'agir, l'envie d'entreprendre, le goût de l'innovation aussi. Et la fondation, en fait, elle est là pour exprimer ses valeurs sur tout le territoire. Et la librairie, comme Bertrand le dit, la librairie, elle a été quand même financée par Banque Populaire Atlantique Coopération.
Oui.
Elle a été conseillée. Et puis ensuite, nous, la fondation, on a apporté un complément. Mais c'est donc un travail d'équipe sur le terrain. Et ça, c'est formidable. Et là, les banques populaires se retrouvent complètement dans ce genre de projet, quoi. Ils sont très fiers
de soutenir ce genre de projet.
Et
quand on entend Charlotte effectivement qui dit ça y est, on est impliqué dans le quartier et tout, c'est vraiment ce genre de projet qu'il faut évidemment mettre en avant.
Ah oui. Donc, tout à fait, la valeur de la proximité, c'est très important pour les banques populaires, hein. Nous sommes un groupe coopératif, donc toutes les banques populaires ont des actions en fait sur leur territoire, alors associatives, et nous sommes la fondation nationale et nous avons des soutiens envers les personnes individuelles. Donc, c'est un complément, en fait. Et vraiment, c'est vraiment l'homme qui est au cœur de toute cette valeur, quoi.
Bon, alors, je suis sûre qu'on a donné plein d'envie et plein d'idées aux personnes qui nous écoutent. Concrètement, si on souhaite vous proposer un projet, comment est-ce qu'on doit procéder?
Alors, pour nous proposer un projet, nous avons un site Internet donc, où on peut télécharger le dossier, lire tous les critères. C'est www.fnbp.banquepopulaire.fr.
On mettra tout sur notre site.
Ou alors, on me téléphone tout simplement.
À toute heure du jour
réponds,
et de la nuit, bien entendu.
Voilà, bien sûr.
On va vous donner son numéro de portable personnel.
Je n'avais pas donné mon numéro de téléphone. Mais voilà, non, c'est très facile. Ou alors, les personnes peuvent carrément passer par les banques populaires en région.
Par la banque populaire de sa région,
tout à fait.
Directement.
Tout à fait, parce que nous avons un correspondant dans chaque banque. Et donc, nous avons des projets qui ont commencé par la petite agence locale dans la campagne, qui sont arrivés au siège et qui ensuite nous arrivent jusqu'à nous.
Et déjà, savoir tout de suite si le projet est éligible ou pas.
Tout à fait.
Ne pas se lancer dans quelque chose d'un petit peu long et forcément compliqué.
Oui,
parce
c'est
que vous
pour
dites
ça qu'il vaut mieux...
Pièces,
voilà, quand on n'est pas sûr, il vaut mieux me téléphoner pour tout de suite.
Pour dire, voilà tel est mon projet, voilà quelles sont mes difficultés.
Voilà.
Est-ce que vous pensez
peut conseiller
que je peux,
également
est-ce qu'on peut travailler ensemble?
Si on voit que le projet est un petit peu trop tôt, trop en amont de nous, ce qu'on peut faire, on peut conseiller. Et puis, des projets reviennent des fois un an après. Et là, ils sont
possible.
Prêts.
C'est possible. Ce n'est pas parce qu'il
soutenu.
A été refusé une fois qu'on ne peut pas le représenter.
On en reporte.
On le retravaille.
Voilà, on leur dit, écoutez, votre projet, il est très bien, mais c'est un peu trop tôt. Donc, faites-vous conseiller par tel organisme ou pas. Il manque encore des choses et revenez nous voir. Et de temps en temps, il se passe que les projets sont soutenus.
Je vais dire un complément parce que...
Un complément rapide.
Rapide. C'est-à-dire qu'en fait, la fondation, c'est quand même trois jurys.
Oui.
Donc, partie handicap, partie musique et une partie artisanat d'art. Et en fait, ce qu'on essaye de plus en plus, c'est les rencontres entre les différents jurys, les différents lauréats des jurys. Et je pense notamment, par exemple, on a eu un archetier qui a été financé et aidé dans sa formation, dans sa création, je ne sais plus exactement... en tant que lauréat, et que finalement on l'a mis en contact avec les musiciens, et donc il a pu être présent sur un salon Musicora parce qu'il était notre lauréat. C'est un des lauréats de la musique qui a joué avec l'Archer, Voilà, et donc c'est ça ce qui est superbe, c'est que il y a cette espèce de collaboration et de rencontre dans les différentes phases, dans toutes les phases de la fondation, entre les différents jurys.
Oui, ça doit être vraiment très émouvant. Je comprends que vous n'ayez pas envie de lâcher ça hein, depuis 25 ans.
Jamais, parce que... s'il y a un problème d'âge.
Merci beaucoup, en tout cas. Cette maison est la vôtre. Vous revenez quand vous voulez, peut-être avec un autre projet. Ça, c'est... Voilà, les micros sont à vous, quand vous voulez.
Merci beaucoup.
Merci. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir ce matin. Merci, Alim, d'avoir réalisé cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Tout est possible sur vivrefm.com. Réécouter, podcaster l'émission et retrouver toutes les informations. Bonne journée à tous à l'écoute de Vivre FM. Dans quelques minutes, les infos, puis la suite de vos programmes.
Vivre FM, podcast.